Les messicoles, on les appelle également plantarvales, cégétales ou encore commensales des cultures, des vignes et des vergers. Rien à voir donc avec l'envoyé de Dieu ou encore le footballeur. Les messicoles ont notamment été popularisés par Claude Monet et son tableau « Les coquelicots ». Le monde de la parfumerie a également mis en avant ce même coquelicot avec « Flower by Kenzo ». Enfin, le bleuet des tranchées de la guerre 14-18 devint également le symbole des combattants et victimes de guerre. Dans cette nouvelle émission, je vous propose ainsi de partir à la découverte des diverses, mais souvent discrètes, plantes des cultures, le cortège des plantes messicoles.
Dans cette émission, Urbaflore aujourd'hui. Urbaflore, l'émission mensuelle du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, animée par Jérôme Garcia, qui est chargé de conservation. Alors, c'est quoi, Jérôme, une messicole? Est-ce que tu peux donner une définition ou des exemples?
Alors, messicole vient du latin messi, qui veut dire moisson, et colere, qui signifie habiter. Donc, les messicoles, ce sont les plantes compagnes ou habitantes des moissons ou des vergers. Ce sont des espèces en fait, qui font partie d'un cortège que l'on rencontre parfois et principalement, mais de moins en moins, en milieu agricole, dans des cultures diverses, telles que le blé, l'orge, la fève ou le colza. Elles ont un cycle de vie qui est calé depuis des siècles en fait, sur celui de ces cultures, du semis à la germination automnale ou hivernale, puis à la floraison printanière et la fructification. On a des espèces qui sont bien synchronisées avec le cycle des moissons. Elles ont besoin d'une perturbation annuelle et automnale du sol pour pouvoir se maintenir dans les milieux cultivés et dans la durée. On compte un peu plus d'une centaine de messicoles en Midi-Pyrénées, en ex-Midi-Pyrénées, et la plupart sont des espèces qu'on appelle annuelles ou térophytes, pour avoir un terme un peu plus scientifique. Et d'autres sont des espèces à bulbes, on les appelle des géophytes. Parmi ces espèces messicoles, puisque tu voulais quelques exemples, on a l'adonis, l'anthémis, le biphora, le souci des champs, ou encore le bleuet, qui est parmi l'une des espèces messicoles les plus connues, l'agnel, le pied d'alouette, le miroir de Vénus, la nigelle, la pensée des champs, les gagées et les tulipes, et bien sûr le coquelicot que j'ai cité en introduction. Voilà, certaines, elles sont fortement menacées et d'autres sont protégées, comme les tulipes d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut parler de mauvaises herbes des cultures?
Alors, même si le terme de mauvaise herbe, il est plutôt bien ancré dans le langage courant, il est bien pratique aussi pour justifier de l'élimination de ce qui prend la place des bonnes herbes cultivées. Moi, je pense qu'il est nécessaire de nuancer. Il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes non désirées. Aujourd'hui, on parle plutôt d'adventis, du latin adventitius, qui vient de l'extérieur, parce que ces plantes, elles poussent dans des milieux aménagés sans y avoir été introduites exprès. Au-delà de la sémantique, les messicoles ne se comportent pas comme des espèces problématiques réellement pour la culture. Des espèces problématiques, on peut penser au chardon, au chien-d'en, au liseron, au chénopode, ou encore à des exotiques et envahissantes, ambroisie ou lampourde. Si on les trouve, c'est qu'il y a eu un bug dans l'itinéraire cultural. Les messicoles, elles sont en général peu concurrentielles, elles se maîtrisent facilement et elles ne parviennent pas à se maintenir hors des champs. Ça en fait donc des adventices peu robustes et fragiles, et elles apportent même une plus-value dans l'exploitation agricole.
Comment? En quoi est-ce qu'elles sont intéressantes alors?
Alors, elles sont intéressantes à plusieurs titres. Par exemple, il faut savoir que certaines messicoles étaient, et sont encore utilisées d'ailleurs, pour leurs vertus médicinales ou alimentaires. On pense à l'eau de bleuet, qui est apaisante, à l'huile de caméline, aux effets calmants également du coquelicot. On peut également consommer la mâche en salade. La mâche est aussi une espèce messicole. On peut consommer également une plante qui s'appelle la noix de terre, qui a un goût de noisette. Voilà, toutes ces espèces sont des messicoles et ont toutes ces vertus-là. Sinon, dans la parcelle de céréales, les messicoles, elles contribuent aussi à accueillir des animaux dits auxiliaires. Ce sont des insectes, des oiseaux ou d'autres prédateurs qui vont se nourrir de pucerons, de cochenilles, d'acariens ou d'aleurodes. On peut citer par exemple les coccinelles, les sirfs, les scarabées, les punaises, les araignées, qui participent, grâce à la présence de messicoles, à la lutte contre ces ravageurs des cultures. Les fleurs de messicole aussi, elles apportent du pollen et des nectars aux butineurs, comme les papillons, les sirfs ou les abeilles, qui vont être eux aussi consommés par des oiseaux. Les messicoles, elles sont ainsi à la base de la chaîne alimentaire dans les cultures. Encore faut-il leur laisser une petite place. Car plus largement, elles intègrent un agro-système bien plus vaste que le champ seul. Avec les arbres, les haies sauvages, les bandes enherbées, elles vont limiter la banalisation des paysages agricoles en augmentant le niveau et la résilience ainsi que la fonctionnalité de la biodiversité, alors que la culture d'une seule plante et sur plusieurs hectares réduit considérablement les atouts de cette biodiversité. Quand on sait qu'un tiers des oiseaux des champs ont fortement décliné ces 20 dernières années, la préservation des messicoles est un levier incontournable pour relever la barre. Lisa.
Oui.
Je crois qu'il est temps qu'on se prenne une bonne glace au coquelicot pour se rafraîchir. Et par la même occasion, si ça te va, on va s'écouter Rite avec son titre Fleurs des champs.
La dernière fois en Ardèche, j'ai mangé une glace au foin et c'était super.
Ah.
Ce matin, la plus jolie des fleurs a éclos dans mon jardin. Quel bonheur! Depuis le temps qu'il ne poussait que du chien dent, ou bien quelques mauvaises herbes de temps en temps. Je voudrais bien te cueillir, tu vois, mais alors tu faneras entre mes doigts. Car jamais on n'a cueilli une fleur sauvage, douce, fragile et légère comme un nuage. C'est une fleur des champs, libre comme le vent. C'est une fleur des champs, une fleur du printemps, une fleur des prés, une fleur des prés. Jamais on ne se saisit d'une fleur sauvage. Dans un pot, elle est comme un oiseau en cage. Alors je me suis assis près de mon ami et j'ai décidé de rester là pour la vie. Pour protéger celle que j'aimais contre tempête, vents et marées. C'est une fleur des champs, libre comme le vent. C'est une fleur des champs, une fleur du printemps, une fleur des prés.
De retour sur CFM Radio dans l'émission Urbaflore du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. On est toujours avec Jérôme Garcia qui nous présente les plantes messicoles, ces discrètes et souvent méconnues habitantes des moissons. Loin d'être des mauvaises herbes, ces adventices fragiles sont aussi de précieux atouts pour l'écosystème agricole et sa biodiversité. Mais allons plus loin, car ces plantes messicoles sont menacées, c'est ça ?
C'est bien ça. Plusieurs d'entre elles sont effectivement menacées ou ont même disparu du territoire français. C'est le cas notamment de deux espèces qui ont disparu. 18 sont menacées de disparition et 14 sont quasi menacées de disparition. Les principales raisons de ce déclin, c'est l'urbanisation, l'enfrichement, c'est-à-dire l'abandon des cultures. C'est la conversion également de ces cultures en prairies. Mais surtout, c'est la modification du contexte et des pratiques agricoles qui visent à augmenter la productivité, à éliminer tout adventice, à spécialiser les exploitations et à généraliser les pratiques intensives. Et cette évolution, elle est née après la Deuxième Guerre mondiale, avec un besoin de nourrir la France selon un modèle productiviste américain, avec l'arrivée des pesticides, des engrais chimiques, la mécanisation, le labour profond. Et puis, plus récemment, on a des nouvelles techniques comme le semis direct et le déchômage précoce qui se fait juste après la moisson et ça empêche les messicoles à floraison estivale de fructifier. Il existe encore, heureusement, des secteurs près de chez nous riches en messicoles. On en a par exemple en Aveyron, sur le plateau du Larzac, dans le Lot, sur les causses du Quercy, dans le Tarn, sur le plateau Cordé, et dans le Gers, du côté de Pavie. Leur présence est souvent associée à des sols pauvres, peu profonds, à des cultures qui sont extensives, avec peu ou pas d'intrants, et à un mode de culture de type polyculture-élevage, dans lequel la production de céréales sert à nourrir les bêtes. L'existence de messicoles n'est donc pas un souci et en général, le tri de céréales n'est pas parfait et cela permet aux graines d'être récupérées et ressemées. À savoir aussi que culture bio ou intensive, même constat. L'élimination des plantes indésirables est tout aussi efficace par le travail mécanique du sol que par la chimie.
Même constat quand même.
Le bio a tout un tas d'autres avantages, effectivement, mais par rapport aux adventices, en tout cas, c'est tout aussi efficace.
On fait quoi, du coup, pour le sauvegarder?
Alors, il existe un plan national d'action sur les plantes messicoles. Il a été mis en place sur une première période de 2012 à 2019 et il a été suivi par un nouveau plan national d'action qui est basé sur les espèces et les communautés inféodées aux moissons, vignes et vergers pour la période 2024-2033, qui a été validée et publiée en 2025. Ces plans d'action guident les démarches en faveur des plantes messicoles. Ils rassemblent de multiples partenaires pour conserver et restaurer les populations de ces plantes. Ils se déclinent en plans régionaux d'action, avec des actions variées, qui se focalise notamment sur l'identification de la répartition des plantes messicoles, des enjeux sur un territoire, des communes concernées, des menaces qui les frappent, des pratiques favorables et tout un tas d'autres outils et leviers d'action, ainsi que le rapprochement nécessaire avec la profession agricole. Ça passe par des actions de sensibilisation. Donc en conservatoire botanique, on a mis en place par exemple un jeu de rôle, des expositions, on fait également du conseil de la formation auprès des agriculteurs, on participe à l'éducation à l'environnement sur cette thématique et on intervient dans les établissements agricoles. On peut apporter également des préconisations sur le terrain avec des pratiques plutôt favorables qu'on a pu étudier. Par exemple, la rotation des cultures qui intègre au moins une céréale d'hiver dans le cycle. Ça peut être la mise en place de bandes non traitées en périphérie du champ, sur 1 à 2 mètres en bordure du champ par exemple. La mise en place de labours moins profonds sur une vingtaine de centimètres. Un déchômage, c'est-à-dire un travail du sol après la moisson qui se fera plutôt tardivement que précocement. Enfin, il y a également des MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques, pour permettre aux agriculteurs de mettre en place ce type d'initiative en faveur des plantes messicoles. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le net en tapant les mots-clés messicoles et sauvegarde.
Alors c'est quoi le lien entre ces messicoles et le programme Urbaflore?
Alors c'est un peu comme la fable de La Fontaine, le rat des villes et rat des champs. Si Urbaflore s'intéresse à la flore sensible urbaine et périurbaine, il existe au Conservatoire botanique un programme midi-pyrénéen de vigilance dédié à la flore agricole sauvage et menacée, qui s'appelle Messiflore. Les deux programmes, Urbaflore et Messiflore, ont d'ailleurs quelques espèces en commun, comme l'Adonis flamme, l'anémone couronnée, le pied d'alouette de Verdun, la gagée des champs, la nigelle de France, le coquelicot hybride et les tulipes protégées. Également, dans Urbaflore et avec des collègues, on apporte aussi un appui technique à des porteurs de projets et aux services de l'État pour accompagner la restauration de milieux ou d'espaces qui ont été perturbés après des travaux. On plébiscite pour cela des mélanges de végétaux sauvages et locaux qui portent le label végétal local, dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Et parmi les espèces qui sont mises en avant dans ces mélanges végétal local, il y a des plantes messicoles, donc des plantes annuelles comme le bleuet, le chrysanthème des moissons, le coquelicot, l'anthémis et d'autres encore, qui vont fleurir la première année avant d'être remplacées par des bisannuelles, puis des vivaces. Mais ceci est une autre histoire. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir un nouveau cortège de fleurs, celle des champs. et qu'elle vous aura aussi donné le goût de l'écoute des émissions passées et à venir, mais surtout qu'elle participera à la découverte et à l'émerveillement du monde qui croise votre regard tous les jours. On se dit donc à la rentrée, ou avant, sait-on jamais, avec un nouveau sujet qui, j'espère, vous animera. D'ici là, ouvrez l'œil, restez curieux, critique et constructive, posez-vous des questions et partagez-les.
Partagez-les en passant par le site cfmradio.fr où vous retrouverez toutes ces émissions Urbaflore en podcast. Bon été, Jérôme Garcia, chargé de conservation pour le CBN et qu'on retrouve tous les mois donc sur CFM pour cette émission.
Merci Lisa et bon été à tous.